C'est bien bon, c'est que si vous voulez, on va tourner ensemble dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, donc le thème, c'est les dispensations. Fait qu'on va regarder ça ensemble. C'est vraiment le plan de Dieu, c'est un plan pour se révéler à travers les âges. C'est une révélation progressive de Dieu. Dieu ne s'est pas révélé tout d'un coup, mais il s'est révélé d'une façon progressive pour qu'on puisse le connaître. C'est sûr que l'immensité de Dieu, la grandeur de Dieu, c'est difficile, même avec toute la révélation qu'il nous a donnée, c'est difficile de tout assimiler, de tout prendre. Dans l'éternité, on va avoir l'éternité pour le connaître. Mais il s'est révélé à nous d'une façon progressive, par sa grâce, puis même on voit qu'il s'est révélé à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est abaissé, qui a voilé sa gloire pour qu'on puisse le comprendre, le connaître. Puis il nous faisait connaître le Père. Donc on va lire pour nos passages, on va lire deux passages dans Éphésiens au chapitre 3, on va lire au verset 5, qui nous dit ici au verset 5, « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Paul ici nous parlait du mystère qui a été révélé, c'est le mystère de l'Église qui a été révélé par lui, par les apôtres, que le Seigneur n'avait pas révélé. On le voit en type dans l'Ancien Testament, mais il n'avait pas encore été révélé. Maintenant, il est révélé. Paul nous parlait de ça. Puis ensuite, au chapitre 2 et au verset 7, bien, on va peut-être aller au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, des choses qui n'étaient pas dans l'Ancien Testament. Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, dans les siècles à venir, il nous parle de des siècles, on va regarder ça un petit peu. Puis, aussi, dans le 1:10, dans le chapitre 1, verset 10, il dit, on va commencer peut-être par le verset 9. Il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, il y a un temps, Dieu se révèle, il révèle différentes choses à différents temps. Quand on a vu dans le chapitre 3, le verset 5, qui nous parle ici de. Au verset 5, il nous avait dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Le mot génération ici, ça veut dire, c'est une génération impliquant un âge, ou la période où les personnes, ça concerne les périodes où la personne, on parle d'une génération, où une période messianique, puis présente ou future. Donc, il y a des âges différents
Il y a
dans
des âges
l'histoire.
différents dans
Dans Éphésiens 2:7, quand il dit
les siècles
le
à
mot
venir,
veut dire, proprement, c'est dit un
dire,
âge par extension
un âge par extension
passé,
aussi, ça peut être
impliquant le monde spécifiquement, comme une période messianique présente ou future.
Le
mot veut dire les siècles à venir. Et dans chapitre 1, verset 10, c'est lorsque les temps, mais c'est, on nous dit dans la marge, puis dans la version anglaise, on nous dit que c'est littéralement lorsque la dispensation du temps serait arrivée à son terme. Lorsque la dispensation du temps serait arrivée à son terme. Puis ici, c'est le mot, comme il nous a été annoncé, c'est le mot oikonomia, qui veut dire une économie, une intendance. Le mot veut dire une administration, comme l'administration d'une maisonnée. Par exemple, ou d'une succession, quelque chose qui a spécifiquement une économie, au point de vue religieux, une dispensation, une intendance. Donc, c'est ce que les mots veulent dire ici. C'est quelque chose qui a été donné à l'homme, un peu un test, mais on va regarder ça ensemble. On sait qu'aujourd'hui, dans le temps qu'on vit présentement dans l'Église, on voit que les dispensations, l'enseignement sur les dispensations est remis en question. Elle est remise en question, puis on est exposé à toutes sortes de théologies. Puis on voit qu'une chose qui est à remarquer, la théologie n'est pas l'autorité. L'autorité, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La théologie, c'est vraiment comme l'enseignement ou l'étude de ce que Dieu est. Puis, il faut vraiment différencier entre, il y a plusieurs systèmes théologiques. Si c'était l'autorité, on serait mal pris. Mais l'autorité, c'est toujours la parole de Dieu. La théologie, ça peut être un système que des hommes ont formulé, mais il faut pas vraiment lire la Bible avec le grid ou le patron de la théologie. Il faut lire la parole de Dieu puis la recevoir. C'est vraiment important parce que faut pas oublier qu'il y a des théologiens qui ne sont pas sauvés. Fait que si un théologien n'est pas sauvé, comment il peut connaître les choses de Dieu? La parole de Dieu nous dit que l'homme naturel ou l'homme irrégénéré ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, puis il peut pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que Dieu communique avec nous au niveau de l'Esprit. C'est pour ça qu'avant qu'on soit sauvé, on peut pas comprendre Dieu. Il faut vraiment que quand son Esprit vient nous habiter, puis il fait une œuvre même avant notre salut pour nous amener à comprendre les Écritures, le plan de Dieu. Puis, c'est pour ça qu'on dit des fois, c'est une expression, j'ai vu la lumière. C'est que tout d'un coup, tout s'éclaire, puis on peut comprendre la parole de Dieu. Pas complètement, parce que on peut passer toute une vie à apprendre la parole de Dieu, mais on en comprend plus. Dieu communique avec nous au niveau spirituel. Warren Wisby, qui était un commentateur biblique, lui disait, un théologien est un homme aveugle dans une chambre obscure qui cherche un chat noir qui n'est pas là, puis il le trouve. Aussi, Sundar Singh, lui, il disait, les théologiens, ils analysent la parole de Dieu, puis le lait de la parole, il dit, moi, je le bois. Puis c'est pour ça que ce qui est important vraiment, c'est d'être dans la parole de Dieu, puis que laisser le Seigneur nous communiquer quand on est sauvé, laisser le Seigneur nous communiquer ses vérités dans sa parole. Il communique avec notre âme. Arnold Gerber disait, lui, on voudrait christianiser des âmes. Il dit, tout ce qu'on a à faire, c'est de les amener au Sauveur. Puis c'est l'attouchement du Sauveur sur leur âme qui va les transformer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer personne, mais le Seigneur, lui, ça c'est la sanctification qui se fait dans la présence du Seigneur. Donc, comme j'ai dit, il y a des gens qui sont théologiens, mais qui ne sont pas sauvés. C'est pas que la théologie est nécessairement toute mauvaise, mais on voit que dans la théologie, il y a beaucoup de contradictions. Puis, si c'était ça qui était notre autorité, on aurait des problèmes. Mais c'est vraiment, il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Puis, pas lire la parole de Dieu avec des présuppositions de théologie. Il faut vraiment lire la parole de Dieu telle qu'elle est, puis pas appliquer notre théologie à la parole, mais laisser la parole nous convaincre, laisser la parole nous faire comprendre ce que Dieu veut nous donner. Vous savez, une chose qu'on voit aujourd'hui, c'est que on est exposé à la théologie de la réforme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est poussé aujourd'hui. On veut revenir à la théologie de la réforme. Si la réforme, c'était une œuvre de Dieu qui était merveilleuse, qui a fait en sorte qu'ils ont trouvé et ont revenu au salut par la foi. Des théologiens d'auparavant croyaient que le salut était par les œuvres. C'était des théologiens, on parle de l'Église catholique, croyaient que le salut était par les œuvres. Mais à un moment donné, il y a des gens qui, en regardant dans la parole de Dieu, que Dieu, c'était pas seulement les noms qu'on connaît, il y a des gens qui comprenaient le salut par la foi dans la parole de Dieu, mais Dieu a utilisé des gens qui ont fait face à un système théologique pour dénoncer le fait que le salut n'est point par les œuvres, mais qu'il est par la foi seulement, dans l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix du calvaire. Puis on est content de ça, c'est vraiment merveilleux. Mais une chose qui est arrivée dans la réforme, c'est que on n'a pas poussé plus loin. On s'est arrêté là dans un sens pour plusieurs choses. On n'a pas remis en question tout le système. On a remis en question le salut par la foi, mais on n'a pas remis en question toute la façon que l'Église fonctionnait. Puis on a copié on a fait des nouvelles églises sur le modèle de ce que l'Église catholique était. Puis, on va regarder dans l'Apocalypse pour un moment, dans l'Apocalypse au chapitre 3. L'Apocalypse au chapitre 3, on a l'Église de Sardes qui représente, dans le plan prophétique, qui représente l'Église de la Réforme. Puis le Seigneur ici, qui est celui, c'est toujours le Seigneur qui est au-dessus de toute chose, c'est toujours lui qui est, c'est lui qui est la tête, qui a été donné comme chef suprême à l'Église, c'est lui qui nous donne l'instruction, c'est lui qui peut évaluer chacun, peut évaluer ses églises, c'est lui qui se tient au milieu des sept chandeliers d'or. Il dit au verset 1 du chapitre 3, « Écris à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Mais il dit, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alors on voit ici, le Seigneur, il parle, puis son évaluation à lui, c'est ce qui compte. Mais il dit qu'ils n'ont pas gardé la parole, ils n'ont pas persévéré dans la parole. Puis il aurait dû continuer à remettre en question tout un système qui était déjà là. C'est qu'ils ne sont pas revenus aux instructions par rapport à la vocation de l'Église. Ils ne sont pas revenus aussi à l'attente de l'Église, qui était le retour du Seigneur Jésus. Et son fonctionnement, de quelle façon la structure de l'Église devait être, pas une structure imposée par des hommes, mais les instructions simples de la parole de Dieu du Nouveau Testament. Donc, ils ont formé des églises sur le modèle de l'Église catholique, puis ils ont rempli ces églises-là parce qu'ils n'ont pas, regardé comment le baptême, la situation du baptême, ils ont baptisé des enfants comme dans l'Église catholique, et ils ont fait entrer plein d'enfants baptisés dans l'Église, mais qui n'étaient pas sauvés. Fait, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'on s'est ramassé avec des églises pleines de gens qui étaient inconvertis. Il y avait des convertis. Puis c'est pour ça qu'il dit, tu as un nom que tu es vivant, mais tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais il y en avait quand même qui vivent dans ces églises-là, qui ont le salut, qui connaissent le salut de Dieu. Mais il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. C'est quand ces gens-là montent dans les rangs, mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné? C'est que on a le salut par la foi, c'est perdu. Puis il y a des, pas toutes, mais il y a des églises comme ça qui ne prêchent plus l'Évangile. Puis même des ministres ou des pasteurs qui ne connaissent pas l'Évangile. Fait, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça fait en sorte que on s'est éloigné de vraiment ce qui était important. Mais ce qui arrivait dans ces églises-là, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un arrivait qui connaissait l'Évangile, puis lui, il commençait à prêcher l'Évangile. Il prêchait l'Évangile à des gens qui étaient prêts à l'écouter, des gens qui portaient attention à ce qu'il disait. Puis, il y avait des réveils quand l'Évangile était prêché dans ces églises-là, mais il y avait des réveils des gens qui se tournaient vers le Seigneur pour être sauvés. Puis, on dit de Charles Spurgeon qu'à toutes les fois qu'il prêchait, il y avait des conversions. Ben, imaginez-vous, il y avait des milliers dans ces églises-là qui étaient prêts à écouter, puis le Seigneur utilisait sa parole pour amener des gens à l'Évangile, pour être sauvés. Donc, c'est ça, mais ils n'ont pas vraiment tout remis en question. Dans la Réforme, il y avait des choses qui n'ont pas été remises à la lumière, qui n'ont pas été amenées à la lumière. Puis, ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont posés des questions. Vous savez, quand on marche par la théologie, bien, ce qui arrive, c'est qu'on impose notre théologie aux Écritures. On appelle ça exégèse. Exégèse, c'est contrairement à l'exégèse, l'exégèse consiste à projeter dans le texte ce que le lecteur souhaite y lire plutôt que d'en extraire le sens. L'exégèse y impose un sens qui est souvent influencé par des préjugés personnels, des tendances culturelles ou des présupposés théologiques. Ça, c'est Bob Green, je ne le connais pas, mais j'ai pris sa définition, puis je trouvais que c'était bien. Mais tandis que l'exégèse, c'est désigne le processus qui consiste à extraire le sens d'un texte, afin d'en comprendre et d'en transmettre l'intention initiale. Donc, l'exégèse, c'est vraiment, j'ai mon idée préconçue, je vais dans la parole de Dieu, puis vous savez, on peut trouver des versets qui vont sembler m'appuyer. Ça, c'est de imposer à l'Écriture ma façon de penser. Puis les religions sont comme ça. Ceux qui utilisent la parole de Dieu, ils imposent leur doctrine, ils imposent leur croyance à la parole de Dieu, puis ils trouvent des versets pour s'appuyer. Tandis que l'exégèse, c'est de vraiment venir à la parole de Dieu. Comme un petit enfant, le Seigneur, il dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, ou des cieux. Donc, il faut venir à la parole de Dieu avec un esprit ouvert à la parole. Il faut venir à la parole de Dieu pour se laisser enseigner. Si je connais tout, vous savez, il y a quelqu'un qui connaît tout, là, tu peux essayer d'enseigner quelque chose, mais il sait déjà. C'est que ça va pas bien. Mais quand on est prêt à être enseigné, quand on est prêt à prendre la parole de Dieu pour ce qu'il dit, puis c'est ça qui nous avait été dit au début de ma vie chrétienne, on nous disait, c'est la parole de Dieu, il faut prendre la parole de Dieu. On sortait d'un système théologique qui on avait trouvé faux. Donc on était prêt à tout remettre en question notre connaissance pour que la parole de Dieu puisse maintenant nous enseigner. Puis on trouvait des choses, puis on disait, ah, regardons ça, toi. Moi je me souviens, j'avais dans la, c'était pas religieux, mais dans ma pensée, moi je disais ça à ma femme, je disais, les hommes sont bons, c'est l'entourage autour des autres qui rend mauvais. Puis là, après que j'ai été sauvé, j'étais en train de lire un livre, puis il disait, non, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, selon la parole de Dieu. Puis là, je disais ça à Denise, j'ai dit, Denise, regardons ça, toi, c'est vrai. Puis là, il donnait des exemples que le cœur de l'homme était méchant. Elle a dit oui, puis toi, tu disais qu'il était bon. J'ai dit, c'est bien vrai. Mais parce que là, on mettait en question tout ce qu'on avait comme bagage pour prendre ce que la parole de Dieu nous disait. Donc, c'est important, c'est ça que Paul exhortait Timothée. Dans 2 Timothée 2,15, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité, de la vérité. » Donc, c'est important. Aujourd'hui, on nous dit que le dispensationalisme, c'est trop jeune pour être vrai. C'est un argument qu'on entend. On nous dit que c'est depuis Darby, puis Scofield qui a publié sa Bible, tout ça, que on a été exposé au dispensationalisme. Mais sauf que faut pas oublier que avant, dans l'Église primitive, ils croyaient ces choses-là. Même Augustin, c'est pas un auteur que j'aime citer nécessairement, mais quand même, il a dit des choses qui étaient vraies. Augustin, ça fait longtemps, là, c'est pas jeune, là. Lui avait dit différencier les âges et les Écritures s'harmonisent. C'est vrai. Comment comprendre la parole de Dieu si on ne différencie pas les différentes façons que Dieu s'est révélé à différents moments aux hommes? Parce que là, ça devient une confusion. Puis les religions qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, pour comprendre, bien, ils prennent des versets ici et là, puis ils s'appuient là-dessus, puis ils ne voient pas le plan, comme notre frère nous a parlé d'un plan de Dieu avec les rois, puis tout ça, mais il a progressé là-dedans. Mais si on comprend pas ça, ben on a de la difficulté à comprendre le reste de l'Écriture. Mais des fois, ces choses-là, c'était l'influence des événements, l'influence du monde, en sorte que l'Église a changé sa position. Et l'Église, quand on lit dans l'Église primitive, et on voyait ces choses-là, mais à cause des temps, à cause des événements, à cause du monde dans lequel l'Église était influencée. L'Église ne devrait pas être influencée par le monde autour d'elle. L'Église devrait influencer le monde, mais elle ne doit pas, elle garde la position que le Seigneur nous a donnée. C'est lui qui est le chef suprême de l'Église. Donc, mais dans le réveil, auparavant c'était comme ça, mais dans le réveil, qu'on a, c'est après la réforme, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a des gens qui ont vu les problèmes qu'il y avait dans la réforme. Vous savez, les gens se ramassaient avec, on avait la communion avec des frères, mais quand ça venait au temps de pouvoir adorer Dieu, ben, on pouvait pas le faire parce qu'un était dans une église, l'autre était dans une autre église, puis ça causait, dans ce temps-là, il n'y avait pas de mélange. Aujourd'hui, avec le communisme, tout le monde se mélange, puis c'est pas mieux. Mais vraiment, on peut s'unir, comment qu'on peut s'unir? C'est sur la personne du Seigneur Jésus-Christ qu'on peut s'unir, en regardant à lui. Non, mais dans le réveil, c'était aussi un mouvement de l'Esprit de Dieu dans l'histoire de l'Église, où des gens ont poussé dans la parole de Dieu pour se demander quel est le problème, où est le problème. Puis en fouillant, le Seigneur a révélé par son Esprit des choses qui nous sont précieuses aujourd'hui. Mais on voit qu'on est rendu à l'église de Laodicée. Puis Laodicée, ben, on s'inquiète pas des instructions du Seigneur. On veut juste avoir le groupe. On veut montrer que la puissance est manifestée dans le grand nombre, puis que dans toutes les activités qui se passent. Le Seigneur, il dit à l'église de Laodicée, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, puis que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu, puis je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, c'est important de... Eux, ils ont revenu à chercher les Écritures pour comprendre le plan de Dieu. Puis c'est ça qui est important. Le Seigneur, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est une bénédiction qu'il nous a donnée de pouvoir connaître le mystère de sa volonté dans sa parole, par son esprit qui nous parle. Donc, les dispensations... C'est le moyen que Dieu s'est révélé aux hommes d'une façon progressive, en leur donnant des intendances ou des charges, avec des instructions et une mise à l'épreuve. Dieu, il donnait une mise à l'épreuve aussi. Donc, une intendance ou une dispensation, là, c'est ça, c'est comme on a dit tantôt, c'est la gérance d'une maisonnée. Donc, Dieu donnait, puis de régler les affaires. Donc, Dieu avait donné des autorités aux hommes. Mais toujours sans jamais oublier que l'autorité est déléguée. L'autorité que Dieu a donnée à des hommes est déléguée. Puis c'est là que le problème, comme dans l'Église qui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner. C'est que l'Église, la femme représente l'Église. Puis l'Église a pris l'autorité sur la tête de l'Église qui est le Seigneur Jésus. C'est ça qui est arrivé le problème dans l'Église. C'est que l'Église, on connaissait bien ça, il y avait les commandements de Dieu, mais il y avait les commandements de l'Église. Puis il y avait l'autorité de l'Église. Des fois, on demande à ces chefs religieux-là, des fois, puis « Ah, ben c'est ce que l'Église enseigne. » Mais c'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Fait qu'il faut vraiment revenir à ce que la parole de Dieu enseigne. Dans les dispensations, on voit qu'il y avait 7 points distinctifs des dispensations. Chaque dispensation... possède un principe directeur par lequel Dieu gouverne. C'est un principe directeur par lequel Dieu gouverne. Deuxièmement, c'est une révélation spécifique de Dieu qui était inconnue auparavant. Dieu se révèle d'une façon plus claire, plus avancée. Troisièmement, c'est un défi ou une épreuve, une mise à l'épreuve appliquée à l'humanité. Dieu donne un défi à l'humanité dans les dispensations, dans chaque dispensation. Aussi, quatrième point, c'est une responsabilité spécifique pour l'homme sous ce gouvernement. Dieu donne à l'homme une responsabilité spécifique. Cinquièmement, c'est une démonstration de l'inhabilité de l'homme en échouant à l'épreuve. Ça finit toujours que l'homme échoue, mais Dieu n'échoue pas. L'homme, et c'est pour démontrer à l'homme que sans Dieu, ben, on n'est rien. Et après ça, ça finit par un jugement divin qui suit l'échec de l'épreuve. Parce que Dieu avait dit, tu fais ça, comme on voit dans le jardin, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a désobéi, il y a eu un jugement. C'est Dieu avait dit, tu mourras certainement. Puis il est mort spirituellement au moment où il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis ensuite la mort, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Puis ensuite de ça, ben, ça finit par une promesse d'une descendance salvatrice pour la rédemption, que ce soit de manière directe ou symbolique. Et que à la chute de l'homme, ben, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Hein? Puis Dieu pourvoit d'un moyen de salut. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on voit dans les dispensations. Donc, les 7 dispensations qu'on connaît dans la parole de Dieu, c'est l'innocence. Quand Dieu a créé l'homme dans l'innocence, puis il y a une différence entre l'innocence et l'impeccabilité. Adam était un homme innocent, il n'avait pas de péché, il était innocent, mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, est un homme impeccable. C'est différent d'un homme innocent. Adam pouvait pécher, et il a péché, qui a entraîné la mort qui est venue sur toute la race humaine. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il était sans péché, il ne pouvait pas pécher parce qu'il est Dieu lui-même. Cette sainte chose qui naîtra de toi avait été dit à Marie, sera appelée le Fils de Dieu. Donc c'est impossible que Dieu pêche. Puis c'est merveilleux parce que si Adam était un homme innocent, ben il nous a tout emmené dans le péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il nous a tout emmené dans la vie. Parce que le Seigneur Jésus est sans péché pour l'éternité. C'est merveilleux de voir ça, là. Les chefs religieux, là, Ils ont toutes leurs forces, mais le Seigneur Jésus est le seul qui, lui, est parfait, puis est parfait pour l'éternité. Son règne va être basé sur la justice. Il est basé sur la justice. Donc, dans les sept dispensations, on a l'innocence. Ça, c'est des dispensations passées. L'innocence d'Adam à la chute. La conscience de la chute au déluge, quand l'homme est devenu conscient du bien et du mal. Mais on sait que ça finit en sorte qu'il est tombé dans le mal. Puis il n'a pas fait le bien. Et le gouvernement du déluge à Abraham, on sait que Dieu a donné l'autorité civile à partir du après le déluge. Dieu a dit, si l'homme verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. C'est pour ça que Romain nous dit que le magistrat, c'est pas en vain qu'il porte l'épée. Parce que quand il punit, il punit. Puis il y a l'autorité de Dieu pour le faire, de punir. Dieu a donné cette autorité-là à l'homme. Ensuite de ça, on a la quatrième, c'est la promesse avec la loi. La promesse qui est venue, ça c'est d'Abraham à Moïse jusqu'à Christ, à la venue de Christ sur la terre. Et puis ensuite de ça, présentement, on est sous la grâce. Sous la grâce de Dieu, ça, de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et pour le futur, eh bien, qu'est-ce qu'on a, c'est que pour le futur, il y a la tribulation qui vient sur la terre. Une tribulation de 7 années qui nous est parlée dans la parole de Dieu, qui va durer 7 ans. Ça part de l'enlèvement de l'Église. Au moment où l'Église est enlevée sur la terre, là, ça va être la tribulation qui va commencer pour 7 ans sur la terre. Puis, ça jusqu'à la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, après ça, le 7e, c'est le millénium, qui est 1000. Mais pour nous autres, c'est facile, comme en latin, 1000, c'est 1000, puis année. Millénium, 1000 années, c'est un règne politique de justice qui va être établi sur la terre, littéralement, par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, comme notre frère nous a parlé, lui va être roi et sacrificateur. Il va avoir l'autorité complète, pas juste sur Israël, mais sur toutes les nations. Et puis, il va avoir un règne de paix pendant 1000 ans, un règne de prospérité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mais il y a une chose avec les dispensations. C'est pas nécessairement des périodes de temps. Parce que parfois, elles se chevauchent. L'innocence, mais ça, on l'a perdue. Quand l'homme a péché, on est tous devenus pécheurs. Parce qu'on est tous nés d'Adam, on est tous des pécheurs. Donc, l'innocence, on l'a perdue dans le péché. Mais, quand on pense à la conscience, bien, la conscience, on a cette conscience-là. On peut voir le bien et le mal. Mais le problème, c'est qu'on fait le mal. Puis, quand on parle du gouvernement humain aussi, le gouvernement est encore, le gouvernement humain, l'autorité déléguée à un gouvernement sur la terre, ça vient de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que les autorités qui ont été établies par Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne réalisent pas, ils mettent Dieu dehors. S'ils mettent Dieu dehors, s'ils brisent l'autorité de Dieu, ils brisent leur propre autorité. Parce que, vous savez, si on n'obéit pas à l'autorité à laquelle on est soumis, puis on est en autorité sur quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qu'on lui montre? On lui montre de désobéir. Puis c'est ça qui arrive avec les gouvernements aujourd'hui. Un jour, ils vont avoir à rendre compte, quand le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la terre, puis il va avoir à rendre compte, puis les gens qui ont été en autorité civile sur la terre, ils vont avoir à rendre compte à Dieu un jour, parce qu'ils ont usurpé l'autorité de Dieu. Nous autres, on nous demande, le Seigneur nous demande, d'obéir aux autorités civiles par motif de conscience jusqu'au point où il nous faut désobéir à l'autorité de Dieu qui est au-dessus de l'autorité civile. Donc, il faut faire attention, c'est pas facile de discerner ça, mais il faut le faire. Donc, elles se chevauchent, ces dispensations-là se chevauchent. C'est sûr que la grâce, ben, c'est une période où la grâce est manifestée plus ouvertement, mais tous les gens qui vont être au ciel vont avoir été sauvés par la grâce. Parce qu'il n'y a personne qui va être justifié par la loi devant Dieu, mais par la grâce. Donc, ceux qui ne distinguent pas les dispensations, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont spiritualiser ou faire interpréter les Écritures d'une façon allégorique. Parce que c'est sûr, si ça ne fonctionne pas, il faut changer, il faut arranger ça pour que ça fonctionne. Donc, au lieu de prendre la Bible dans son sens littéral, ils vont spiritualiser. Quand ils parlent du royaume, parce que le royaume, c'était quelque chose qui était vraiment clair dans la parole de Dieu. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, et même des Juifs, Quand le Seigneur est venu, c'est quoi qu'il avait en tête? Il attendait le roi. Il attendait leur royaume, il attendait leur Messie, il attendait celui qui allait leur donner la victoire sur les nations. Puis même à la fin de son ministère, le Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, quand il était avec ses disciples, ils ont dit, quel sera le signe de ta venue? Puis le Seigneur, il leur a dit, dans Actes, on est peut-être dans Actes au chapitre 1, on voit que c'était leur attente, c'était vraiment imprégné en eux. Là. Il dit... Au verset 4 du chapitre 1 du livre des Actes, il nous dit ici, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'un Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Et vous, c'était dans leur pensée, là. C'est ça qu'ils s'attendaient, là. Puis le Seigneur, il leur dit, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, ils disent, là, il met la parenthèse. Oui, le royaume va venir, mais là, il met la parenthèse. C'est pas à vous autres de connaître les temps. Les moments. Mais il dit, là, présentement, c'est ce qu'on est. Il dit, vous recevrez une puissance. Il fallait qu'ils attendent pour la puissance du Saint-Esprit qui commençait. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'était pas pour parler en langue, c'était pour former un corps. Vous avez tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Puis, il n'y a pas de distinction. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'était pour former le corps du Seigneur Jésus-Christ, qui est le corps, l'Église, ici sur la terre, aujourd'hui, qui fait l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Elle est faite de toutes les nations des disciples. La grande commission, ça c'est la période que le Seigneur nous a montré avant le royaume, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui s'en va dans le monde pour prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, pour que tous ceux qui vont se repentir de leurs péchés puis croire à l'Évangile, ils vont être sauvés pour être enlevés à la fin de la période de l'Église par le Seigneur qui va venir lui-même sur la nuée. Donc, c'est important. Quand c'est les gens qui prennent la parole de Dieu d'une façon spirituelle ou qui l'interprètent pour changer ce qu'elle veut dire, ben, quelqu'un disait, si le sens littéral de la parole de Dieu, si le sens littéral fait du sens, cherche pas un autre sens. Parce que le Seigneur, il nous a communiqué. Il y avait, une fois, je parlais avec un témoin de Jéhovah, puis il était arrivé avec, il avait sa Bible, puis tout ça, j'ai dit, garde, on va discuter à une condition. Oui, il dit, c'est laquelle? Ben, j'ai dit que quand on changera pas le sens des mots, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, là? On va s'arrêter, on va prendre ce que la parole de Dieu dit, on va le prendre dans la signification que les mots veulent dire. Ben, il n'y a pas discuté. Il est parti, il s'est en allé, puis il n'y a pas discuté, parce que lui, ben là, les gouvernements, ben, ça veut dire ci, puis un autre mot, ça veut dire ça. Ils ont leur interprétation des mots. Alors, il faut s'arrêter à l'interprétation de la parole de Dieu. Il y a des fois que c'est au sens, ça peut être au sens figuré, il y a des fois, mais quand le sens littéral fait du sens, cherche pas un autre sens, c'est la parole de Dieu. Puis eux, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des passages de la parole de Dieu, puis ils les interprètent à leur façon. Ils leur donnent le sens qu'ils veulent leur donner, le sens selon leurs présuppositions, selon leurs croyances religieuses ou leurs doctrines, puis ils imposent ça à l'Écriture. Mais 2 Pierre 1, verset 20 à 21, il dit, « Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière ou le prendre à part pour l'interpréter. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, des fois même, il nous dit, Pierre, qu'il voulait sonder les époques pour voir ce que l'Esprit de Dieu leur révélait parce qu'ils ne comprenaient pas. Il leur était dit que ce n'était pas pour eux qui donnait ces choses-là, parce qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, la connaissance pour comprendre ces passages-là. Il les écrivait. Il les écrivait, mais sans vraiment les comprendre, parce que ce n'était pas donné à eux. Paul, il nous parle que lui, maintenant, il avait reçu une connaissance de ces mystères-là par révélation. Puis là, il pouvait nous enseigner. Nous, on peut les comprendre, ces passages-là, parce qu'ils concernent la période de la grâce dans laquelle on est. Donc, c'est ça qui est important. Mais il se soumettait à Dieu dans la révélation, puis il écrivait ce que Dieu avait dit. Comme aujourd'hui aussi, dans l'Église, on voit que l'enlèvement de l'Église est remis en question. Vous savez, quand moi j'ai été sauvé, je ne connaissais pas ça. Dans la religion catholique, on ne nous avait jamais parlé que le Seigneur Jésus reviendrait du ciel pour prendre son Église avec lui, les transformer, les ressusciter ceux qui étaient morts, puis les emmener avec lui. On ne nous avait pas parlé de ça. Mais moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, c'était frappant, ça. Le retour du Seigneur, puis c'était tellement merveilleux de dire, à n'importe quel temps, le Seigneur peut revenir nous prendre pour nous emmener avec lui. Il n'y a pas de prophétie à accomplir. C'est le Seigneur qui lui-même, il va venir, puis il va nous prendre pour nous emmener avec lui dans le ciel. Ça, c'est merveilleux. Je me souviens une fois, j'étais avec mon père, puis j'avais un petit Nouveau Testament dans ma poche, puis on était dans le bois. D'habitude, il était là, dans le bois, il se sentait en sécurité parce qu'il ne savait pas que j'avais la parole de Dieu avec moi. Fait que là, j'y parlais du retour du Seigneur. « Ouais, mais ça, c'est dans votre religion. » Non, je sors mon Nouveau Testament. » J'ai dit, « Non, c'est dans le Nouveau Testament. » Quand j'ai sorti mon Nouveau Testament, là, ça s'est arrêté là. Il ne voulait pas... Mais c'est l'enseignement du Nouveau Testament. Vous savez, ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, l'attente de l'Église. L'attente de l'Église, c'est quoi? Il y a des gens qui disent qu'on va passer à travers la tribulation. Ben, moi, je dis, « Si tu veux passer, tu passeras. Moi, je ne passe pas. » Puis ils disent aussi, j'ai dit, si vous attendez l'homme de péché, moi j'attends l'homme sans péché. Puis qui va revenir une deuxième fois sans péché. Puis on n'est pas, c'est la colère de Dieu qui vient sur les habitants de la terre. On n'est pas des habitants de la terre, on va regarder ça aussi. Mais l'Église primitive était pré-tribulationniste. Pré-tribulationniste, ça veut dire quoi? Que l'Église est enlevée avant la tribulation. Ou l'épreuve qui va venir sur les habitants de la terre. Puis, prémillénariste, ça veut dire que le Christ revient avant son royaume. C'est lui qui va installer son règne sur la terre de justice. C'est ça qui est prémillénariste. Mais on voit que dans la parole, l'espérance de l'Église, c'est la venue de Christ. L'Église, comme une épouse, attend son époux. Puis, elle n'attend pas les tribulations. Si on pouvait savoir que si on savait qu'on allait passer à travers la tribulation, ben quand l'homme de péché se présenterait, on saurait qu'il restait 7 ans. Mais l'attente n'est pas comme ça, on ne sait pas, on n'a aucune idée quand est-ce que ça va venir. Puis tous ceux qui ont donné des dates à date, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a juste, comme le Seigneur Jésus, le Père qui savait la date, puis c'est lui qui décide, mais c'est l'attente. Puis la parole de Dieu nous dit que celui qui a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Ben oui, on attend de rencontrer celui qui est pur, celui qui est parfaitement pur. Puis quand on va le rencontrer, moi j'en remercie le Seigneur de ça, c'est que dans un instant, quand la trompette va sonner, dans un instant, dans un clin d'œil, on va être transformé. Je vais vous dire, je vais être bien plus beau dans ce temps-là. Puis on va être parfait. Ben oui, mais c'est merveilleux parce que vous savez, quand Jean a rencontré le Seigneur sur l'île de Patmos, il a tombé à ses pieds. Pourtant, c'était un bien-aimé du Seigneur. Il était dans sa chair encore, il a tombé comme mort à ses pieds. Daniel aussi, homme bien-aimé, il est appelé, il a tombé comme, il n'y avait plus de souffle en lui. On ne serait pas capable de supporter la grandeur, la splendeur. Je pensais à ça ce matin, vous savez, on sait que le Seigneur va venir, il peut revenir là. Mais on serait surpris s'il arrivait. On en parle, là, puis si le Seigneur arrivait, là, on serait surpris. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça va être. Pouvez-vous vous imaginer qu'est-ce que ça va être là, d'être changé en un instant, en un clin d'œil, puis d'aller voir le Seigneur dans sa majesté, dans sa beauté, dans sa toute-puissance? On serait écrasé, mais on ne sera pas, parce qu'on va être parfait. Ça va être merveilleux quand on va le voir face à face. Puis, il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui nous dit ça. Plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous dit ça. Vous savez, Darby est allé en Suisse, parce que là, c'était l'Église réformée qui était en Suisse. Mais comme on en parlait tantôt, l'Église réformée, parce qu'ils ont fait entrer beaucoup de non-sauvés dans l'Église par le baptême, ben, il prêchait pas nécessairement le salut. Sauf peut-être certains qu'il faisait. Mais quand Darby est allé pour faire des conférences sur le retour du Seigneur dans ces églises-là, les gens venaient à ces conférences par curiosité. pour voir où ce qui prendrait ça dans le Nouveau Testament. Puis ils ont été frappés de voir que c'était partout dans le Nouveau Testament. C'était partout le retour du Seigneur, l'attente de l'Église, l'attente du Seigneur Jésus-Christ, c'était partout dans le Nouveau Testament. Puis les gens se sont tournés, ils ont formé des assemblées. C'est pour ça que la Suisse, majoritairement, ce sont dans des assemblées. Mais on va regarder peut-être quelques passages. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. C'était un sujet qui était vraiment discuté à Thessalonique à cause des persécutions, à cause des situations qui arrivaient, mais il y en avait qui disaient qu'ils étaient déjà dans la tribulation. Et Paul les remet, il leur avait enseigné pendant son séjour avec eux, mais il les remet à l'ordre par rapport à ces choses-là. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15-18, c'est un passage vraiment classique sur la situation du retour du Seigneur. Et peut-être on va aller au verset 13. Il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ. » Pas toutes les morts, là. C'est les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sont en Christ, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pas par le fait que l'homme de péché va venir sur la terre, mais par le fait que le Seigneur Jésus revient. Puis les morts en Christ, ceux qui étaient morts, qui avaient mis leur espérance, leur foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui était mort selon les Écritures, qui était enseveli, puis qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, c'est eux autres qui vont ressusciter. Les autres, c'est après le millénium. Mais ça, c'est important. Mais la résurrection n'était pas générale ici, là. Elle n'est pas générale. C'est ceux qui sont morts en Christ. Et ceux qui sont vivants, qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens 1, 9. 1 Thessaloniciens 1, 9. Regardez ici, c'est un autre passage qui nous parle de l'attente de l'Église. Il nous dit ici, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir, de la tribulation. » Il nous délivre de la tribulation. Donc, c'est l'espérance des saints, c'est quoi? C'est d'attendre des cieux son Fils qui vient pour nous prendre. Puis, dans Romains 5, 9, il dit aussi, « À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés, » justifiés qui veut dire déclarés justes par Dieu, et nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir? Ou sauvés de la colère? C'est le fait que la tribulation, c'est la colère de Dieu qui vient sur les habitants de la terre. Dans Apocalypse 3, 10, il dit, parce que tu as gardé, il parle à l'église ici de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à ou hors de. Parce que c'est ec, hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous, on n'est pas des habitants de la terre. Les habitants de la terre, on les voit dans l'Apocalypse. On les voit dans le jugement. C'est des gens qui habitent sur la terre que Dieu a créée, mais ils ne veulent pas de lui. Ils l'ont tellement refusé, comme on voit la laïcité aujourd'hui, on le met dehors, on ne veut pas de lui, mais il est dehors. Et même à l'église de Laodicée, il est à la porte, puis il frappe. Il est en dehors. On l'a tellement mis dehors que maintenant, c'est des gens qui veulent vivre sur la terre que Dieu a créée. Celui qui lui a donné l'existence, mais on ne veut pas de lui. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu ou non Dieu. Il ne veut pas la pensée de Dieu. Puis, je parlais justement à quelqu'un, il dit, nous autres, on est laïcs. J'ai dit, c'est justement le problème. On a mis Dieu dehors, puis on pense qu'on va régler nos problèmes nous autres mêmes. On ne les réglera pas. Mais c'est ça, ces gens-là, c'est des habitants de la terre, ils vivent. C'est un peu comme si je vous invitais à venir chez nous, puis un coup vous êtes bien installés, vous me mettez dehors. Vous voulez pas m'avoir, vous voulez avoir ma maison, mais vous voulez pas m'avoir moi. Pars d'ici. C'est comme ça qu'on traite Dieu dans le monde dans lequel on vit. C'est eux qui ils veulent pas de Dieu. En voulant pas de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ils vont voir Satan. C'est lui qui va venir sur la terre, dans l'homme de péché. Ils vont voir qu'est-ce que c'est que d'être dirigé par Satan. Parce que Satan, ça sera pas beau, là. Ça va être terrible. Si aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est difficile, là, imaginez-vous qu'est-ce que ça va être dans la tribulation. Quand le Saint-Esprit va être enlevé avec les croyants qui vont être enlevés, ça va être terrible. Il n'y aura pas de restriction. Ça va être l'iniquité, ça va être le péché. Puis déjà, on en voit le début là, de ça, là, la conséquence de mettre Dieu à la porte. Là, ils vont l'avoir complètement. Mais le Seigneur, il dit, nous autres, on n'est pas des habitants de la terre. Pierre nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » À un moment donné, on était allé en Yougoslavie, puis vous savez, on se sent vraiment étranger. Donc, ils ne parlent pas la même chose que nous autres, ils ne nous ressemblent pas. C'est des coutumes différentes. Là, on se sent vraiment étranger. Tu n'as pas l'idée de te bâtir une maison. Là. Tu dis, je suis ici pour une couple de semaines, puis un mois, puis après ça, on s'en va chez nous. Mais c'est comme ça qu'on doit être sur la terre. On est des étrangers et des voyageurs. Dans Éphésiens, il nous dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors en rapport avec Israël ou la place avec Dieu, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Puis, le Seigneur, il ne lui donnera pas sa colère. Parce que on la mérite. Gilles Vigneault, il parlait de son père, quand il voulait les battre, il disait, on l'évitait, mais on la méritait. Nous autres, on l'évite, mais on la mérite. Parce qu'on mérite le jugement de Dieu, la colère de Dieu, mais Christ l'a pris à notre place. C'est ça qui est la beauté de l'Évangile, c'est que Christ a été puni à notre place. En Isaïe 53, les souffrances de Christ, hein, qui dit dans Isaïe 53, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le psaume 22, le Seigneur, il a frappé Christ pour nous. Il ne frappera pas deux fois. Il va frapper ceux qui ont refusé Christ. Mais ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ sont épargnés. C'est tellement merveilleux, là, vous savez, de voir ça. Et le Seigneur, il punira pas deux fois. Puis on voit aussi un autre passage, c'est qui est convaincant pour moi, c'est que dans l'Apocalypse, il dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Puis le jugement commence dans l'Apocalypse avec qui? Avec les églises. Jusqu'au chapitre 4. Puis au chapitre 4, il dit que Jean est appelé, il y a une porte ouverte dans le ciel. Puis, comme il dit ici, « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Quand le Seigneur a fini le jugement de ses églises, il dit, « La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Puis après ça, on voit plus l'Église sur la terre, sauf l'Église apostate, la fausse Église. Mais la vraie Église, on la voit plus jusqu'à la fin, on la retrouve dans chapitre 19, elle est dans les cieux. Fait que ça, c'est des choses qui sont convaincantes pour moi. Puis, en tout cas, il y a des choses qu'on pourrait dire encore, je vais m'arrêter là, parce que Marc, il va venir pour terminer avant de dîner. Puis, on va dîner vers midi. Georges est parti chercher la nourriture. Fait que quand il va revenir, on va pouvoir, on va donner des annonces. Puis, on va donner des instructions pour la nourriture. C'est qu'on va terminer un mot de prière, puis Marc, il va venir pour prendre un temps ici. Seigneur, notre Dieu, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous d'une façon qu'on pouvait le prendre un peu comme un nouveau-né. On ne donne pas la nourriture solide, on donne le lait. Puis, Seigneur, tu nous as donné ta connaissance, tu nous as fait progresser dans ta connaissance, puis tout ce qu'on peut connaître de toi est merveilleux. Puis on attend ton retour, on attend le retour de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés de nos péchés. On te remercie pour ça, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.